Bush, le 41e président des États-Unis, a tenu à éviter le sort tragique d'un de ses prédécesseurs, William Henry Harrison, qui, après avoir délivré un discours inaugural de 90 minutes sur les marches glacées du Capitole, était mort de pneumonie un mois plus tard. Le successeur de Ronald Reagan s'est donc adressé plus brièvement à la nation américaine, après avoir juré sur la Bible ayant appartenu à George Washington de servir fidèlement son pays et de préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. Jean-Luc S. Washington, France Inter.
Jean-Luc S., correspondant à Washington. Jean-Luc S., entré à France Inter en 1972, licencié en 2004, alors qu'il dirigeait notre station, après avoir présenté le 13h, animé le 18h, chapeauté la rédaction. Il est revenu par la grande porte en 2009, président-directeur général de Radio France. Il fut tour à tour viré par la droite et remercié par la gauche. Il s'en amuse et s'en félicite tant il a vu le politique se mêler de médias publics. Cette vie de radio, il la raconte dans un bouquin où s'entremêlent l'histoire du média, centenaire, et la sienne, au micro. Hasard du calendrier, le livre sort un jour de mesures d'audience. Constat sans appel, les Français sont de moins en moins nombreux à écouter la radio. En revanche, ils se ruent sur l'audio. Ça passe par les podcasts, ça passe par le numérique. Mutation profonde et rapide de notre média qui repose sur la voix. Lire Jean-Luc S. aujourd'hui, non pas comme un témoignage d'antan, mais comme un condensé de notre héritage à projeter vers l'avant.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Ça vous colle toujours la chair de poule, Jean-Luc S.
Ah oui, Fingertips, j'ai le même âge que Stevie Wonder, pile poil.
C'est vrai ?
Moi qui avais 12 ans quand il chantait ça. Mmh. Et avec
il
une
me paraît
petite sœur,
très très vieux Stevie Wonder.
Ouais. Et avec une de mes petites sœurs, on comparait, ça nous foutait enfin, vraiment une émotion, et on comparait nos chairs de poule sur les bras. Alors mmh. C'est ça la radio.
Bonjour, que... président.
Bonjour, pardon, j'ai oublié, c'est l'excitation.
C'est moi, président, parce que vous avez le droit à président à vie, c'est comme
oui,
quand on a
je
été
peux
président.
M'en passer,
vous pouvez vous en passer. Alors Jean-Luc S. a écrit « Ces ondes merveilleuses, la radio à 100 ans ». Ça paraît chez Baker Street, son éditeur. Je vous préviens, ça va être une interview patchwork. J'ai pioché dans ces 400 pages de souvenirs très hétéroclites. J'ai pioché des choses sur votre enfance, parce que ça commence comme ça, l'enfance de la radio.
Ça commence comme ça, la vie.
L'enfance de la radio et la vôtre. Ça commence avec un radio là. Ça commence avec votre père qui écoutait Radio Luxembourg.
Ben oui, comme tout le monde à peu près, hein, c'était la station préférée des Français. Et puis c'était marrant parce que chez nous, bon, on roulait pas sur l'or, il y avait cette espèce de bastringue de poste de radio. Mmh. Et alors quand on est gamin, on n'avait pas le droit d'y toucher parce que c'était un truc qui valait cher quand même. Et mon père réglait, vous savez, l'œil de cyclope là, bien vert, là, qui bougeotait pour trouver les stations. Et donc on se tapait Yvette Horner, souvent le dimanche matin. Donc j'ai comment dire, quand j'entends de l'accordéon, comme on dit, le piano du pauvre, là, ça, j'ai deux sensations très différentes. J'ai la nostalgie de l'enfance, mais aussi j'en ai plein les oreilles, je supporte plus. Mais c'était très important parce que nous... on n'avait que la radio, quoi. On avait un chien pour aller se balader, quelques bouquins pour essayer de s'instruire. Et puis la radio, c'était le monde, quoi. Le monde. Il y avait des trucs écrits, vous êtes trop jeune, mais il y avait écrit Bratislava, par exemple, sur le cadran du radio là, où il y avait Greenwich. Et je me disais, alors je savais à peine lire, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces machins? Il faut y aller, quoi. Donc, ça a dû sûrement aussi m'aiguillonner pour bouger un peu mes fesses de ma Normandie natale.
Il y avait toute la France qui passait à travers la radio, avec ses hauts, avec ses bas. Il y avait le putsch à Alger.
Mmh, moi, je m'en souviens.
Les vols et les atterrissages sont interdits sur tous les aérodromes de la région parisienne à partir de minuit. Dès que les sirènes retentiront, allez-y, à pied ou en voiture, convaincre des soldats trompés de leur lourde erreur. Il faut que le bon sens viennent de l'âme populaire et que chacun se sente une part de la nation.
Michel Debré,
oui. Mmh. Moi, j'ai entendu ça. Et c'est marrant parce que quand on est gamin, j'avais 10 ans. Hein. Donc, on peut pas se rendre compte on sait pas de quoi on parle, mais la radio, ça vous dit si c'est grave ou si c'est pas grave. C'est rien que le son, même si vous comprenez pas, c'était n'importe quoi, quand on a pied à cheval et en voiture. Ça tenait pas la route politiquement, enfin, historiquement.
Mais l'heure.
Mais on sait.
L'heure était sentencieuse.
Oui, on l'entend. On entend que c'est grave. Et je me souviens quand mon père écoutait Radio Luxembourg, et il y avait à l'époque, ou Europe 1, il y avait Frédéric Potcher. Et Frédéric Potcher, il nous racontait quand même des horreurs. Enfin, c'est des gens. Puis à l'époque, on finissait.
Il était chroniqueur judiciaire.
Oui, et il finissait sur la guillotine, les gens, dans les procès. Donc c'était un peu. Et donc je comprenais rien, mon père non plus probablement, mais on se disait, ah, c'est grave, alors là, oh là 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 là. Et donc c'était tout un monde qui nous appartenait finalement, enfin qu'on nous confiait, et auquel on n'avait pas accès. Enfin dans mon petit bled à moi, il n'y avait rien. Il y avait la base américaine, alors eux ils étaient marrants, mais pour le reste on s'ennuyait à mourir. Quoi. S'il n'y avait pas eu la radio, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je serais devenu, sûrement autre chose. J'ai été facteur.
Et en racontant votre histoire de radio, vous vous plongez dans les archives de la radio, les archives du média, et vous retrouvez les conversations au coin du feu, vous retrouvez le président Roosevelt.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. To talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking, but more particularly with the overwhelming majority of you who use banking.
Une histoire de la démocratie américaine, une histoire de la démocratie américaine qui passe par les ondes, Jean-Luc Hesse.
Vous savez qu'après
Pearl Harbor, dans les années 30,
après le lendemain de Pearl Harbor, il y a 65 millions d'Américains qui ont écouté Roosevelt leur dire « on va gagner ». C'était pas écrit quand même dans l'esprit des gens qu'ils allaient gagner après une catastrophe pareille. Il s'est exprimé, je crois, 34 fois en 10 ans à la radio. Et ce type, pardon de parler comme ça, mais il avait un génie. C'était ce qu'on appelle un naturel. C'est-à-dire quelqu'un à qui on n'apprend pas. C'est une expression qui vient du baseball. C'est-à-dire on peut pas apprendre le lancer à un gamin pour jouer au baseball. Il a le geste ou il l'a pas. On appelle ça un naturel. Et donc, lui, il avait cette voix déjà très très particulière, mais en plus il savait exactement ce qu'il faisait, c'est-à-dire que il n'y avait jamais aucune emphase, il n'y avait jamais de grande émotion. Il parlait à une personne.
Mais ses
seulement.
Allocutions ouais. radiophoniques, il les avait même appelées des conversations au coin du feu. C'est-à-dire,
il y en a qui ont essayé depuis.
Non, mais c'est ça, oui, c'est vrai.
Ça a pas marché.
Non, mais c'est incroyablement visionnaire dans les années 30, ouais. l'idée qu'on va s'adresser à une nation dans une sorte de murmure
et puis
et de
une
dialogue.
Nation qui était dans une catastrophe intense. Il y avait des dizaines de millions de gens qui claquaient du bec aux États-Unis. Et quand il leur a vendu le New Deal à la radio, c'était juste une idée. Hein. C'était une idée dans la tête d'un type qui ne savait pas exactement où ça allait se terminer. Et ben, la promesse a été tenue. Pendant 10 ans, il a réussi à convaincre, grâce à la radio, qu'il y avait un espoir, qu'il ne fallait pas désespérer, justement, qu'il fallait être un peu optimiste sur un projet qui était illisible à l'époque, en 1933, quand il commence ses conversations au coin du feu.
Patchwork, je vous l'ai dit, on tricote entre l'histoire de la radio et la vôtre, Jean-Luc Hesse. Un transistor vous a été offert par un beau-frère qui rentrait de l'armée.
Exactement.
Donc la radio a pu se balader avec vous dans votre chambre. Vous avez pu vous-même changer les fréquences et chercher ce que vous aimiez. Vous découvrez Gérard Cyr.
Ah, alors là, Gérard Cyr, c'est très spécial parce que je copine pas très facilement avec les gens, mais Gérard Cyr, c'était irrésistible. Ce type avait d'abord cette intelligence, ce talent, cette poésie, enfin tous les talents il avait. Et puis en plus, il avait un merveilleux sourire, c'est-à-dire que c'était une star. Hein. Tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. C'est lui qui avait écrit le film avec Jean-Yann. Enfin, c'était quelqu'un qui était très connu. Et quand il venait à France Inter, tous les jours à 13h30 pour lire les contes de Gérard Cyr, ah, je suis tombé en amour. La voix du type. Parfois, il écrivait le conte pendant qu'il disait, il improvisait. C'était un spectacle extraordinaire. Et je pense que pourquoi j'aime la radio, c'est pour des gens comme ça. Et puis surtout, parce qu'on ne voit pas la radio. Maintenant, on la voit. Il y a des caméras partout dans le studio. Là, maintenant, on voit la radio. Mais à l'époque, il n'y a que moi ou Pierre Codou qui venait aussi regarder son copain Gérard Cyr. On voyait la chose se faire en temps réel. Et c'était. On se disait, mais j'aurais jamais ce talent-là. D'ailleurs, j'ai jamais eu. Je pourrais jamais faire ça. C'est du vide. Il est sur du vide. Il remplit le vide et puis il nourrit. Donc, il y a une espèce de translation des vases communicants entre l'émetteur, qui est Gérard Cyr, et puis le récepteur, qui est l'auditeur.
Vous entrez ici en 72, il vous arrive tout un tas de mésaventures, on vous punit, on vous colle la nuit.
Oui, j'ai l'habitude. Mais je dois mériter les punitions, je pense.
Roger Jiquel sauve votre peau plusieurs fois. En 74, on vous envoie en urgence rue Bayard, au siège d'RTL. Il y a un type qui avait pris un studio en otage. Le studio des routiers sont sympas. Il voulait qu'on l'entende à la radio.
Oui, bah, il a été entendu en prison.
Ouais.
Mais non, c'est des moments très particuliers parce qu'il y avait un risque pour Max Penny. Il y avait deux techniciens avec lui en plus. Donc, ça a duré un certain temps. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la radio, c'est quand même tellement important pour un cinglé. Il veut s'exprimer, il veut aller à la radio. Bon, je me dis, il est allé en prison, et puis je crois qu'il a récidivé après. Je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé, mais je me dis, c'est dangereux comme boulot.
Il y a des histoires totalement insolites dans ce que vous racontez, Jean-Luc Hesse. J'ai retrouvé une croisière, mais alors vraiment une croisière complètement tarée.
Ah oui.
700 jeunes enfermés à bord d'un paquebot pour arrêter de fumer. Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Luc Hesse, en reportage.
Le groupe favorise certainement le fait qu'on arrête de fumer. On se soutient mutuellement. Nous formons un groupe de 4 et sitôt que l'un veut faire un écart, ce soir il était question d'un cocktail. On a dit tant pis, allez, il y en a un sur les 4 qui a dit on prendra un cocktail de fruits et on s'est résigné, on a pris tous les 4 le cocktail de fruits. Mais on était à deux doigts de piquer au club et puis de prendre un vrai cocktail, un cocktail à base d'alcool.
Mais qui a eu cette idée complètement zinzin en 1976?
Ah oui, ça, je veux dire, j'ai passé 8 jours étonnants. Là, c'est Michel Thoriac, qui était un monsieur, c'était le patron de la rédaction, avec qui je m'entendais pas du tout d'ailleurs. Il avait un côté adjudant qui était un peu déplaisant, mais il était bourré d'idées. Et surtout, il était vraiment au service du service public. C'est-à-dire, il croyait à des causes, notamment les beaux de people après. Enfin, je veux dire, au fond, c'était un type bien, quoi. Mais je trouvais que travailler sous sa houlette, c'était un peu, c'était pas très rock'n'roll. Et puis, bon, il monte cette affaire, puis je lui dis, c'est complètement dingue, parce que moi, je suis jeune et tout, vous n'allez pas me laisser sur un bateau avec 700 jeunes filles, 700 garçons, ça va mal finir, quoi.
Bah, bon, ça, c'est mal
ça
fini. Ça s'est terminé dans une orgie totale, alors que c'était une expérience de santé publique,
non,
pour faire arrêter les jeunes de fumer.
Oui, mais c'était un peu idiot aussi, parce que, première escale, c'était à Tanger. Je ne sais pas si vous connaissez Tanger, mais on peut acheter tout ce qu'on veut à Tanger, et pas que des cigarettes.
C'est ça, donc tout le monde est remonté, avec drogue, alcool et tout ce qu'on veut.
Oui, on a bien rigolé.
Oui.
Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, je sais pas, moi je fumais de plus en plus parce que sur un bateau, j'avais pas promis que je ferais la cure. Donc, mais on a beaucoup rigolé. Mais surtout ça m'a valu un petit problème au Maroc, c'est que le dernier jour, Elkabbach avait invité un opposant à Sa Majesté Hassan II. Vous voyez un peu le risque. Et donc, les flics sont venus me chercher sur le bateau. Elkabbach était barré, lui il avait pris l'avion. Et donc, je suis allé, on m'a foutu dans une cellule. Et puis, alors, j'étais en short et en chemisette. Quand on voit arriver la nuit, on se dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, j'ai demandé à aller chercher mon passeport sur le bateau. Et puis, on m'a ramené sur le bateau. Le commandant
qu'est-ce
m'a
que
dit,
c'est
on rentre, on s'en va.
Jean-Luc, est-ce qu'une voix de radio? Vous vous posez la question sans cesse au fur et à mesure de ce livre. Vous vous demandez ce qu'elle avait la voix de Mourouzi. Moi, je vous demanderais aussi ce qu'elle avait la voix de Patrice Bertin.
Interactualité, Yves Mourouzi. Bonjour. Lille, page 787 de l'encyclopédie Larousse, chef-lieu du département du Nord, à 223 km de Paris, en Flandre, sur la Deule.
Le journal vous est présenté par Patrice Bertin.
Au sommaire ce soir, coup de froid général, c'est vrai pour la météo, pour la politique et pour les rapports Est-Ouest. Le froid s'installe sur la France, annonce René Chaboux.
Ce n'étaient pas des belles voix.
Non.
Mourouzi, il a une voix un peu nasillarde qu'on reconnaît entre mille.
Oui, alors bon, ça fait partie du
truc
aussi.
Alors qu'est-ce que c'est qu'une voix de radio?
Une voix de radio, c'est une voix qu'on écoute. Et il y a des voix qu'on n'écoute pas. Ou alors pour de mauvaises raisons, je me dis comme une chatte qui descend d'un toit avec qui toute griffe dehors, par exemple. Il y a des voix comme ça, il y a des voix sales. Il y a des voix... Si vous interviewez, moi j'ai interviewé deux fois Mastroianni.
Oui.
Il n'y a pas plus beau, j'écoutais même plus ce qu'il disait, ça n'avait aucun intérêt, j'étais complètement comme je dis, les marins d'Ulysse qui entendent des sirènes, et ça agit beaucoup sur moi les voix, ouais. Enfin ça, je peux pas vraiment expliquer ça, mais c'est une vérité les voix. D'ailleurs, faut pas écouter la radio avec moi parce que je dis tiens celui-là il est en train de mentir, tiens celui-là il est mauvais coucheur, tiens celui-là il est déloyal, enfin c'est devenu, bon c'était mon métier, comme c'est le vôtre, donc je suis sûr que vous avez le même soupçon sur les voix quand vous entendez...
Très difficile de mentir, je trouve, à travers la voix. Très difficile, alors qu'à la télévision, avec les applaudissements,
métier, hein, la radio,
le grand sourire et l'éclairage, c'est fou tout ce qu'on peut faire croire.
D'ailleurs, on écoute moins... on se concentre moins quand on regarde la télé. Moi, je retiens beaucoup plus de choses quand je suis en voiture et que j'écoute la radio, par exemple, ou chez moi dans mon lit, parce que j'écoute le 7-9 dans mon lit. C'est le privilège des retraités. Et donc, je retiens tout. Si je regarde un journal télévisé, je retiens pas tout, parce que l'image, c'est... Non, c'est bien. Enfin, je suis pas en train de critiquer
Que c'était que l'interview monologue de José Arthur?
Ah, José, le meilleur. Le meilleur d'entre tous, le meilleur d'entre vous. Ce type avait un talent fou, une élégance folle. Il arrive que les invités viennent pas, vous avez remarqué, parce qu'il y a les embouteillages, parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils sont bourrés, ou je sais pas quoi, enfin ils viennent pas. Et donc, c'est quand même un stress dingue, hein, disons la vérité. Et José, lui, c'était pas un stress, lui au contraire. Il faisait question-réponse, mais il pouvait le faire pendant une demi-heure, hein. Se poser une question à un invité qui était pas là, et répondre à la place de l'invité. Il y prenait une espèce de petit plaisir pervers. Il était pervers dans son genre, mais dans le bon sens du terme. Je sais pas ce que ça veut dire pervers d'ailleurs, passer au travers.
C'est ça.
Et donc il était comme ça. Enfin,
il y a presque une trentaine de portraits dans ce livre, Jean-Luc Hesse, Ces ondes merveilleuses. Il y a presque une trentaine de portraits, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est le moment où vous expliquez que tous ces géants de la radio, dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, modestement, étaient tous des autodidactes.
Oui, presque, parce que certains, Gildas, pardon,
avait fait une école de journalisme.
Mais c'est vrai, je pense que c'est très important parce qu'ils ont appris la vie ailleurs qu'à l'école. Je pense que c'est vraiment important dans un média où on est en contact, on appelle ça acousmatique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la source. Et donc, il faut dégager aussi quelque chose de plus que moi, j'ai travaillé à la télé comme tout le monde. Et c'est vrai que quand il y a 20 personnes sur un plateau, de la lumière et qu'on n'a pas de casque, qu'on n'a pas de retour et qu'au fond, tout le monde s'en fout. J'exagère. Ouais. Mais tout le monde se fout un petit peu du propos. Il faut que ça soit propre, que la lumière soit bien, que tout marche bien. Alors ça a changé parce que tout change.
Mais ces autodidactes, ça m'a beaucoup frappé parce que je me suis dit, voilà qui a énormément changé aujourd'hui à France Inter.
Parce qu'ils ont tous...
Nous ne sommes pas des autodidactes. Ouais. Nous, ma génération au micro, nous sommes plus bourgeois sans doute que ces gens-là, plus éduqués, plus diplômés. Plus formés. Voilà quelque chose qui a profondément changé, Jean-Luc Hesse.
C'est aussi parce qu'ils ont pris des chemins de traverse très bizarres et la plupart du temps, c'était lié au théâtre ou essayer de faire du cinéma ou essayer de chanter, devenir chanteur. Donc, il y avait un côté artiste en devenir qui n'est pas devenu. Pour la plupart d'entre eux.
C'est-à-dire que la radio, c'était un plan B pour eux ?
Oui, tout à fait, oui. Il y en a plein qui ont commencé au Standard de France Inter, hein. ou la nuit, ou à Interjeune, ou à Interservice Jeune. Ils avaient essayé de faire une vie, et puis ça avait peut-être pas marché comme ils voulaient. Enfin, je parle des plus grands, hein. Ils ont trouvé leur bonheur, leur réalisation dans un truc où, vous vous rendez compte, il y a des millions de gens qui écoutent, c'est plus que l'Olympia pendant 10 ans, hein, donc ça a nourri sûrement suffisamment un ego.
Ouais.
Sauf pour Lucien Jeunesse, par exemple, à mon avis, qui lui se rêvait comme Aznavour, bon, c'est pas, ça s'est pas passé comme ça. Mais je crois qu'ils ont trouvé une finalité, et on rend service. C'est-à-dire que c'est quand même autre chose qu'un trip mégalo, égotiste ou je sais pas quoi. Vous rendez service, c'est-à-dire les gens de la radio, je vous félicite, vous rendez service aux gens. Et imaginez qu'il y ait une tuile, par exemple, une grosse tuile. Ben, on regardera un peu la télé parce qu'on aime bien les images, on se vautre dedans. Mais comment vous avez appris la mort de Kennedy ou l'homme sur la lune ou comment Coluche s'est pris un accident avec sa moto, comment vous avez appris tout ça? Peut-être en voiture, peut-être voilà, quoi, la radio, écoutez, on me dit toujours que ça va mal, la radio, moi je veux bien, mais il y a 40 millions de gens qui écoutent la radio
oui,
en France tous les jours.
Oui, il y a 40 millions de gens.
Et on m'a dit que FIP, ma station préférée, avait augmenté de 30% son audience en 2 ans. Hein?
Alors... Jean-Luc Hess, ses ondes merveilleuses, les 100 ans de la radio, est publié chez Baker Street. Merci, Président.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
C'est sympa chez vous, d'ailleurs.
Salut, Ali Rebéi.
Salut, The Voice, hein, quand même. Hein.
Exactement.
Ce matin, comment se protéger des sectes? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
Bon, Maurice, t'as le pied de biche?
Oui, mais...
Mais quoi encore?
Je le sens pas. Voilà, j'ai encore fait mon cauchemar avec l'installateur Omiris qui débarque, il met des détecteurs partout. Le gars, il est tellement pro, là. J'en ai des sueurs dans le dos.
Arrête avec Omiris, tu vas nous porter la poisse.
Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains.
Omiris, un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
En ce moment, comme je ne peux pas aller voir maman, je l'appelle en visio, sur sa tablette ardoise. Ça la rassure. Et je dois avouer que moi aussi.
Avec la tablette ardoise proposée par La Poste, les seniors découvrent la joie d'être connectés à Internet et à ce qu'ils aiment. Et jusqu'au 31 janvier, la tablette est à 199€ hors prix de l'abonnement au service ardoise. Une solution mon bien vivre à retrouver à La Poste ou sur ardoise.com.
Il est 10h passé d'une minute sur France Inter. Retour de l'info, bonjour Lauriane Delanoë.